Chapitre 27. Les filles de Tselofkad. Dieu répond à la foi. La conduite des filles de Tselofkad, ainsi qu'elle nous est rapportée au commencement de ce chapitre, offre un beau contraste avec l'infidélité dont nous venons de parler. Elles n'appartenaient certes pas à la génération de ceux qui sont toujours prêts à abandonner le terrain divin, à abaisser l'échelle divine et à renoncer aux privilèges accordés par la grâce divine. Elles étaient déterminées à poser le pied de la foi sur le terrain le plus élevé et, avec une décision sainte et ferme, à prendre possession de ce que Dieu leur avait donné. Et les filles de Tselofkad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, s'approchèrent, et elles se tinrent devant Moïse et devant Éléazar, le sacrificateur, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, disant « Notre père est tombé mort dans le désert, et il n'était pas dans l'assemblée de ceux qui s'ameutèrent contre l'Éternel dans l'assemblée de Corée. Mais il est mort dans son péché, et il n'a pas eu de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas de fils ? Donne-nous une possession au milieu des frères de notre père. » Versets 1 à 4. Cela fait du bien au cœur de lire de telles paroles en un temps comme celui-ci, où l'on fait si peu de cas de la position et des privilèges du peuple de Dieu, et quand tant de gens ne s'inquiètent guère de rechercher les choses qui leur sont gratuitement données par Dieu. Il est triste de voir l'insouciance et l'indifférence avec lesquelles bien des chrétiens professants traitent des questions aussi importantes que la position, la marche et l'espérance, soit de l'Église, soit du croyant individuellement. Est-ce traiter dignement notre Dieu et ses révélations que d'être indifférent de savoir si nous sommes serviteurs ou fils, si nous avons ou non le Saint-Esprit demeurant en nous, si nous sommes sous la loi ou sous la grâce, si notre vocation est céleste ou terrestre? Dieu prend son plaisir en ceux qui apprécient les dons de son amour et qui en jouissent, en ceux qui trouvent leur joie en lui. Nous voyons ces filles privées de leur père, faibles, abandonnées, si on les considère au point de vue humain. La mort les avait privées de l'héritage promis au peuple. Vont-elles simplement y renoncer? Leur est-il égal d'avoir ou de ne pas avoir une place ou une part avec Israël? Eh bien non. Ces femmes nous fournissent un modèle à imiter. Elles étaient assurées qu'il y avait pour elles, dans la terre promise, une part dont ni la mort, ni aucun incident du Nézer ne pourrait jamais les priver. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas de fils? Rien ne pouvait annuler la bonté de Dieu. Alors, donne-nous une possession au milieu des frères de notre père. Nobles paroles qui montèrent droit au trône et au cœur du Dieu d'Israël. Elles étaient aussi un témoignage des plus puissants rendus devant toute la congrégation. Cependant, Moïse est pris à l'improviste, comme dans le cas des hommes souillés du chapitre 9. Et Moïse apporta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Les filles de Tselofkad ont bien parlé. Tu leur donneras une possession d'héritage au milieu des frères de leur père, et tu feras passer à elles l'héritage de leur père. » Versets 5 à 7. Une foi simple et courageuse est toujours sûre d'être récompensée. Elle glorifie Dieu et Dieu l'honore. Dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu prend son plaisir dans une foi qui saisit simplement et qui retient ferme tout ce qu'il a donné, une foi qui refuse d'abandonner la moindre parcelle de l'héritage divin et qui compte sur la fidélité de Dieu pour accomplir tout ce qu'il a promis. Les filles de Tselofkad ont bien parlé. Dieu aime qu'on le croie et qu'on use de lui. Il est impossible à la foi d'épuiser les richesses de Dieu. Dieu ne pourrait pas plus décevoir la foi qu'il ne pourrait se renier lui-même. La seule chose qui, dans ce monde, puisse vraiment réjouir et rafraîchir le cœur de Dieu, c'est la foi qui le croit simplement. Or, une foi qui peut se confier en lui sera toujours celle qui peut l'aimer, le servir et le louer. Nous sommes donc redevables envers les filles de Tselofkad. Elles nous donnent une leçon de grande valeur. De plus, leur conduite fut la cause de la révélation d'une règle divine pour toutes les générations futures. L'Éternel commanda à Moïse en disant « Quand un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Verset 8. Grâce à la foi et à la conduite de ces femmes remarquables, toutes les filles d'Israël, qui plus tard se sont trouvées dans une semblable position, ont bénéficié d'une bénédiction particulière quant à leur héritage. Que l'héritage ne passe pas de tribu en tribu. Le chapitre 36 nous donne un enseignement complémentaire important. Il nous montre la fin de l'histoire des filles de Tselophkhad. Et les chefs des pères de la famille des fils de Galaad, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs des pères des fils d'Israël, et ils dirent « L'Éternel a commandé à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux fils d'Israël, et mon Seigneur a reçu de l'Éternel commandement de donner l'héritage de Tselophkhad, notre frère, à ses filles. Si elles deviennent femmes de quelqu'un des fils des autres tribus des fils d'Israël, leur héritage sera ôté de l'héritage de nos pères, et sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles viendront à appartenir, et il sera ôté du lot de notre héritage. Et quand le jubilé des fils d'Israël arrivera, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront, et leur héritage sera ôté de l'héritage de la tribu de nos pères. » Et Moïse commanda aux fils d'Israël sur le commandement de l'Éternel, disant « La tribu des fils de Joseph a dit juste. » Versets 1 à 5. Les pères de la maison de Joseph doivent être entendus aussi bien que les filles. La foi de ces dernières était des plus belles, mais il était à craindre que dans la place distinguée où leur foi les avait élevées, elles n'oublient les droits des autres, en reculant les limites de l'héritage de leur père. Il ne devait pas en être ainsi. Nous avons besoin d'être gardés de tous côtés, afin que l'intégrité de la foi et le témoignage soient dûment maintenus. C'est ici la parole que l'Éternel a commandée à l'égard des filles de Tselophkhad, disant « Elles deviendront femmes de qui leur semblera bon. Seulement, qu'elles deviennent femmes dans la famille de la tribu de leur père, afin que l'héritage ne passe point de tribu en tribu chez les fils d'Israël. Car les fils d'Israël seront attachés chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. » Les filles de Tselophkhad firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et se marièrent aux fils de leurs oncles. Et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Versets 6 à 12. Ainsi, tout est arrangé. L'activité de la foi est gouvernée par la vérité de Dieu. Les droits individuels sont réglés en harmonie avec les vrais intérêts de tous. En même temps, la gloire de Dieu est pleinement maintenue. Au jour du jubilé, au lieu d'une confusion dans les limites d'Israël, l'intégrité de l'héritage est assurée selon l'ordonnance divine. Moïse approche de sa fin. Le dernier paragraphe du chapitre 27 est profondément solennel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim, et regarde le pays que j'ai donné aux fils d'Israël. Tu le regarderas, et tu seras recueilli vers tes peuples, toi aussi, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que, au désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, vous avez été rebelles à mon commandement, quand vous auriez dû me sanctifier à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont là les eaux de Meriba à Kadès, dans le désert de Tsin. » Versets 12 à 14. Moïse ne doit pas passer le Jourdain. Non seulement il ne peut pas officiellement faire traverser le peuple, mais il ne peut pas traverser lui-même. Telle était l'ordonnance judiciaire du gouvernement de Dieu. Mais d'un autre côté, nous voyons la grâce briller d'un éclat extraordinaire dans le fait que Moïse est conduit, par la main même de Dieu, au sommet de la montagne pour voir le pays de la promesse dans toute sa magnificence, non seulement tel qu'Israël l'a possédé ensuite, mais tel que Dieu l'a primitivement donné. Ce fruit de la grâce se montre plus pleinement encore à la fin du Deutéronome, où il nous est dit aussi que Dieu enterra son serviteur. Moïse ayant parlé inconsidérément de ses lèvres, il lui fut interdit de traverser le Jourdain. C'était Dieu agissant en gouvernement. Mais Moïse fut emmené au sommet du Pisga pour y voir, en compagnie de l'Éternel, une vue complète de l'héritage. Puis l'Éternel fit une fosse et l'y enterra. C'était Dieu en grâce. Il est précieux d'être les objets d'une pareille grâce. Puissent nos âmes s'en réjouir de plus en plus. Nous ferons remarquer en terminant le beau désintéressement de Moïse dans l'établissement de son successeur. Cet homme de Dieu se distingua toujours par un esprit éminemment désintéressé. Grâce rare et admirable. Nous ne le voyons jamais chercher ses propres intérêts. Au contraire, à chaque occasion qui lui fut offerte d'établir sa propre gloire, il montra nettement que la gloire de Dieu et le bien de son peuple occupaient et remplissaient son cœur. Ainsi en est-il dans la dernière scène de ce chapitre. Quand Moïse apprend qu'il ne doit pas traverser le Jourdain, au lieu d'être rempli de regrets pour lui-même, il ne pense qu'aux intérêts de la congrégation. Et Moïse parla à l'Éternel, disant « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer. » Et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Versets 15 à 17. Ces paroles durent être douces au cœur de Dieu qui aimait tant son peuple et qui s'en occupait constamment. L'unique préoccupation de Moïse était que les besoins du peuple soient satisfaits. Pourvu que l'œuvre se fasse, peu lui importe quel est l'ouvrier. Quant à lui-même, il peut calmement abandonner son sort entre les mains de Dieu qui prendra soin de lui. Mais son cœur affectueux est ému de tendresse envers le peuple bien-aimé de Dieu. Aussi, dès qu'il voit Josué établi comme leur conducteur, il est prêt à partir pour entrer dans le repos éternel. Si seulement il y avait parmi nous un plus grand nombre de serviteurs caractérisés par l'esprit de Moïse.